Vous êtes sur RTL. RTL Matin.
Jérôme Florin.
7h44, bonjour Philippe Juvin.
Bonjour.
Vous êtes chef des urgences de l'hôpital Pompidou à Paris, vous êtes le maire LR de la Garenne-Colombes dans les Hauts-de-Seine et depuis une semaine candidat à l'élection présidentielle. Et depuis que vous êtes en campagne, je ne sais pas si vous avez eu le temps de beaucoup repasser aux urgences, mais est-ce que vous avez constaté chez vous à Pompidou donc une pression qui monte à l'hôpital ?
Oui, très clairement, à l'hôpital, le nombre d'hospitalisations augmente.
En raison du Covid ?
À cause du Covid, oui. Dans notre hôpital, on a environ un tiers des places de réanimation qui sont occupées par des patients du Covid. Il faut souligner que la quasi-totalité des patients du Covid, graves en tout cas, ne sont pas complètement vaccinés, c'est-à-dire qu'ils ont eu zéro dose ou une dose.
Jeunes ?
Un peu plus jeune que les vagues précédentes, mais un peu plus jeune, ouais. Et puis, un des éléments très, très caractéristiques de la période du mois d'août, malheureusement, on le voit chaque année, c'est que, comme vous le savez, au mois d'août, les gens partent en vacances, ce qui est normal. Et donc, du coup, nous avons un certain nombre de lits qui sont fermés. Bref, nous avons moins de moyens. Une de nos inquiétudes, c'est si ça continue à monter, parce qu'actuellement, on a la quatrième vague, est-ce qu'elle va se traduire par une augmentation encore plus significative du nombre d'hospitalisations ? Si c'est le cas, on risque d'avoir la conjonction de moins de moyens dus à l'été et plus de besoins liés à l'épidémie. Ça, c'est un élément d'inquiétude.
Vous ou vos collègues, vous arrivez à discuter parfois avec ces patients qui ne sont pas ou peu vaccinés ?
Pour être très franc, ce n'est pas notre priorité. Quand ils arrivent, on les soigne. Quand ils arrivent, on s'enquiert de leur statut vaccinal. Et puis, de toute façon, on prend tout le monde en charge. C'est sûrement pas le moment, si vous voulez, de parler de vaccination quand les gens sont dans l'angoisse d'une maladie qui apparaît et qui, souvent, sont des malades qui croyaient être protégés par je ne sais quel phénomène naturel ou magique. Le ciel leur tombe sur la tête, donc non, pas de discussion de ce type.
Emmanuel Macron répond depuis hier directement aux questions sur le vaccin, sur le réseau TikTok. Il s'adresse aux jeunes. Est-ce que c'est un bon moyen de communiquer ? Vous réclamiez justement une autre façon de communiquer autour du vaccin.
Bon, mais il y a deux choses, si vous voulez. Je pense que depuis le début de l'épidémie, on ne donne pas d'informations suffisantes sur le vaccin.
Pourtant, les ministres sont sur tous les plateaux. On entend des spécialistes matin, midi et soir.
Alors, en fait, il y a une hyper-communication, ça c'est certain. Mais cette hyper-communication jamais ne répond à la question clé qu'un certain nombre de Français se posent. Est-ce que c'est dangereux d'avoir le vaccin ? Parce que c'est ça le sujet. Il y a eu une campagne de communication très sympathique d'une grand-mère, vous savez, qui embrasse ses petits-enfants. Mais est-ce que vous croyez que c'est ce type d'argument qui fait que quelqu'un qui a peur du vaccin va se faire vacciner ? Non. Moi, je pense que sur le vaccin, il faut dire ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas, les effets secondaires, etc. Bref, une information dédramatisée, dépassionnée, sans morale.
Et que le président communique directement, réponde directement aux jeunes qui pourraient lui poser des questions.
Je suis très réservé sur ce type de communication présidentielle. C'est le retour du président épidémiologiste. Ça risque de brouiller les messages. Je pense qu'il y a des médecins, des scientifiques. Il y a le président du conseil scientifique. Ce sont des gens qui connaissent les choses. C'est à eux d'informer. Je trouve que l'hypercommunication présidentielle brouille les messages plus qu'autre chose.
La vaccination des soignants, où en êtes-vous à l'hôpital Pompidou ? Est-ce que tout le monde est désormais vacciné ?
On doit être aux alentours de plus de 90% des médecins, entre 65 et 70%
les 10% qui résistent,
des aides-soignants et des infirmières. Pourquoi ? Bah parce que vous savez, il y a des médecins qui fument et qui savent que pourtant ce n'est pas bon pour la santé. La question qui va se poser au mois de septembre...
Non mais les soignants à l'hôpital Pompidou, donc chez vous, qui refusent de se faire vacciner pour l'instant, qu'est-ce qu'ils vous disent ?
Ils me disent ce que me disent tous les Français, à savoir, on ne sait pas, on préfère attendre, on va voir. Il y a cet argument aussi qui m'est souvent donné, qui est vraiment absurde, qui est de dire, on attend le vaccin de Sanofi, comme si, par magie, le vaccin de Sanofi, sur lequel, là, pour le coup, on n'aura aucun recul, alors que le vaccin de Pfizer, on a des millions de doses qui ont été injectées, arrive.
Ils devront être vaccinés le 15 septembre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y en a qui vont partir ?
Alors, ils devront être vaccinés, en fait, totalement au milieu du mois d'octobre et on devra avoir la première dose en septembre. La loi dit ceux qui ne seront pas vaccinés ne pourront pas venir travailler. Je ne crois absolument pas à l'application de cette loi. Elle est totalement inapplicable. Nous manquons déjà de personnel, d'infirmières, d'aides-soignants, de médecins. Vous ne croyez quand même pas un instant qu'on va dire à des gens de ne pas venir travailler alors que nous en avons besoin pour faire tourner l'hôpital. Non, cette loi, c'est une loi de communication, mais elle ne sera évidemment pas appliquée.
Nous sommes encore moins nombreux à l'hôpital qu'en janvier 2020, dit ce matin le président, le porte-parole de l'Association des médecins urgentistes de France, Christophe Prudhomme. Le départ des soignants est constant, dit-il. C'est quelque chose que vous mesurez chez vous ?
Oui, c'est vrai. Depuis un an et demi d'épidémie, moi j'ai eu des démissions de médecins. J'ai des médecins qui devaient venir travailler, qui ont décidé de ne pas venir, etc. etc. Il n'y a pas un seul service de France en urgence qui est confortable en termes de nombre de médecins. Il nous en manque partout. On manque de médecins aux urgences, on manque de médecins en ville. Essayez de trouver un cardiologue en sortant de RTL tout à l'heure. Essayez de trouver un psychiatre. Vous allez voir comment c'est difficile. Moi, je pense qu'une des leçons de cette crise, c'est que le service public, et les services au public en général, le nombre de médecins fait partie de ça, est très paupérisé en France et c'est un sujet d'inquiétude.
Revenons sur la vaccination, Philippe Juvin. La vaccination obligatoire pour tous, est-ce que c'est la solution ? Elle est portée aujourd'hui par LR, oui. Elle est portée aujourd'hui par le PS, qui pourtant ne communique pas clairement sur le sujet. Pourquoi ?
Je pense qu'il faut faire attention à ce type de déclarations qui sont des déclarations magiques. Parce qu'une fois que vous avez dit « la vaccination est obligatoire », il faut que vous veniez m'expliquer comment vous faites. Vous saisissez les gens de force pour leur injecter le vaccin ? Vous leur mettez des amendes ou vous les mettez en prison parce qu'ils ne sont pas vaccinés ? On voit bien que, évidemment, non, et heureusement. Donc, attention à ne pas brandir des solutions qui ne sont pas applicables et dont on sait qu'elles ne seront pas appliquées, mais qui nous permettent d'avoir bonne conscience. Moi, je crois, et je répète, pardon, c'est très old-fashioned peut-être, mais je pense qu'il faut convaincre les gens, leur expliquer, leur réexpliquer. Aux États-Unis, par exemple, ils font des campagnes d'information ciblées sur des populations. Il est probable que telle population refuse de se faire vacciner pour telle raison culturelle, d'incompréhension de la langue, etc. Telle autre pour d'autres raisons. Eh bien, ayons des campagnes ciblées, soyons intelligents. Or, nous ne le faisons toujours pas. Nous avons une information qui est globale et donc qui est inadaptée à l'attente d'un certain nombre de groupes.
Une troisième dose ? Certains pays s'y mettent, l'Allemagne,
oui.
Israël.
Il y a quelques arguments scientifiques pour penser qu'il faudra probablement une troisième dose, au moins pour certaines populations, populations très fragiles, des gens qui ont eu des greffes en particulier, mais aussi des patients âgés qui ont été les premiers à se faire vacciner en janvier-février. Probablement qu'à l'automne, il faudra une troisième injection. Mais là aussi, on est dans de la découverte, de données scientifiques. Il y aura probablement une nécessité de booster, mais peut-être pas pour tout le monde, en tout cas dans un premier temps. Maintenant, peut-être que moi, j'ai 57 ans, j'ai eu l'injection au mois de janvier, peut-être qu'en janvier 2021, mon taux d'anticorps aura-t-il baissé et je devrais avoir une troisième injection.
Janvier 2022.
Janvier 2022, pardon.
Oui. Philippe Juvin, vous êtes favorable à l'extension du pass sanitaire. On attend le verdict du Conseil constitutionnel jeudi. Plus de 200 000 personnes ont défilé samedi dans les rues en France. Un chiffre qui a doublé en deux semaines. Au cœur de l'été, c'est un mouvement parti pour durer ou il va s'éteindre ?
Je pense que tant qu'on imposera aux Français sans leur expliquer, la colère continuera. Vous dites je suis favorable à l'extension du pass sanitaire. Le pass sanitaire, c'est un très mauvais système, mais nous n'en avons pas d'autre. Moi, je préfère, si vous voulez, un restaurant ouvert avec un pass sanitaire qu'un restaurant fermé sans pass sanitaire. C'est assez simple.
Par ailleurs,
la mise en œuvre du pass sanitaire est très défaillante. En fait, ça fait des mois qu'on sait qu'on va se poser cette question. Et brutalement, début juillet, on l'impose sans avoir discuté avec les uns et les autres. Je regrette, comme d'habitude, qu'on soit toujours en retard sur la prise de décision.
Alors, le pass sanitaire,
ça se prépare, ce type de décision.
Le pass sanitaire, c'est pour dire je me protège avec le vaccin, mais je protège surtout les autres.
Bien
et
sûr.
Une récente étude américaine du Centre de prévention et de lutte contre les maladies affirme que le variant Delta est tout aussi transmissible par les non-vaccinés que par les vaccinés. Autrement dit, le degré de contagiosité, pardon, c'est un peu technique, est le même. Alors, à quoi, finalement, sert le pass sanitaire dans ce cas-là ? La question ne se pose pas ?
La question se pose, évidemment. Je crois toutefois que le pass sanitaire, c'est la garantie que, étant vacciné, si vous êtes infecté, vous ferez une forme moins grave. Encore une fois, la quasi-totalité des patients qui entrent en réanimation aujourd'hui, en France, ne sont pas des patients vaccinés. Donc le pass sanitaire, il témoigne de cela, c'est une incitation à se faire vacciner. Il y en a d'autres qu'on n'a pas utilisés, mais qu'on devrait utiliser. Par exemple, dans le Missouri, dans l'Ohio, ils donnent aux adolescents de 12 à 17 ans des bons d'achat pour se faire vacciner. Finalement, j'ai été relativement opposé, pourquoi pas ? Vous voyez, il faut que nous réfléchissions, nous apprenions à réfléchir différemment, en dehors des codes habituels, parce que la situation est en dehors des codes habituels.
Philippe Juvin, vous êtes donc depuis une semaine candidat à la primaire de la droite et du centre pour la présidentielle. Vous l'auriez été sans la pandémie ? Parce qu'on vous a vu partout.
Je ne sais pas.
Vous êtes devenu médiatique.
Ce qui est certain, c'est que cette crise a été une révélation pour moi en tant que médecin depuis un an. Moi, j'ai mesuré combien la France était devenue pauvre. J'ai vu des gens mourir qui n'auraient pas dû mourir. J'ai vu des gens mourir seuls alors que c'était quelque chose d'absolument fou. J'ai vu la paupérisation des services publics. Et oui, nous pensions avoir le meilleur système de santé du monde. On s'aperçoit que ce n'est pas le cas. Et au fond, c'est le cas de tous les services publics qui sont paupérisés. Donc oui, il est très clair que cette crise a été un révélateur, pour moi comme d'autres Français, de l'état de déliquescence du pays.
Qu'est-ce qui vous distingue de Xavier Bertrand ou de Valérie Pécresse ? Parce que vous dites beaucoup de bien d'eux.
Oh mais moi, de toute façon, je n'ai aucun ennemi en politique. J'ai parfois des adversaires ou des concurrents.
Ouais.
Peut-être une question de méthode. Moi, si vous voulez, comme scientifique, je sais qu'il faut écouter tout le monde pour se faire un avis. Je pense qu'il y a une méthode qui consiste à être ouvert à la discussion et aux arguments contraires. Et puis,
ils ont tous les deux été de très bons ministres. Si certaines de nos universités figurent dans les classements internationaux, c'est grâce à Valérie Pécresse, avec Xavier Bertrand à la santé. Nous n'aurions pas eu de pénurie. Avec un rival aussi sympa, ils sont tranquilles. Hein.
Non, ils ne sont pas tranquilles. Enfin, en tout cas, il y aura une concurrence, il y aura un débat. Ce qui me différencie, c'est la méthode. C'est ce que j'ai vu. Moi, j'ai un métier. Je n'ai pas besoin de sondage pour savoir ce que pensent et ce que vivent les Français. J'ai découvert que le monde politique était un monde qui commentait mais n'apportait pas de solution. Quand vous êtes médecin, vous apportez des solutions, c'est votre métier.
Alors la solution, vous promettez une baisse d'impôts massive ? C'est pas un peu démago ça ?
Non, je propose une diminution massive
des impôts,
des impôts de production. Les impôts de production, c'est quoi ? C'est une catégorie particulière des impôts qui sont des impôts absurdes. Ce sont les impôts que payent les entreprises, tenez-vous bien, avant qu'elles aient fait le premier euro de bénéfice. Ça, ces impôts, il faut les diminuer massivement. Quand vous comparez l'Allemagne et la France, eh bien les entreprises françaises portent un sac à dos plein d'impôts, 109 milliards de différence entre les entreprises françaises et les entreprises allemandes. Comment voulez-vous qu'une entreprise française soit aussi agile qu'une allemande avec autant d'impôts de production sur le dos ? Je pense qu'il y a beaucoup à faire pour que ce pays redevienne un grand pays.
Philippe Juvin, on l'a bien compris, candidat à la présidentielle et puis chef des urgences de l'hôpital Pompidou à Paris. Merci d'être venu.